écoutez, bon réveil et voici le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Un déconfinement en trois temps pour ne pas répéter les erreurs du printemps. C'est ce qu'a annoncé hier soir Emmanuel Macron. Réouverture des commerces dès samedi. Des attestations de sortie toujours, mais des déplacements possibles dans un rayon de 20 km autour de chez soi et pour une durée de 3 heures. À la mi-décembre, passage du confinement au couvre-feu, les cinémas, théâtres et musées pourront rouvrir. Pour les restaurants, ce sera le 20 janvier, mais là encore sous conditions. Stratégie analysée dès le début de ce journal.
Alors on voit le bout du tunnel, mais l'espoir est tempéré chez les libraires qui se demandent encore à quoi va ressembler ce protocole sanitaire renforcé.
Et comme les restaurateurs, les gérants de salles de sport rongent leurs freins suspendus à une réouverture en janvier, si et seulement si la situation sanitaire le permet. À la une encore, en cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, nous irons en Turquie où des féministes osent braver la répression pour réclamer des mesures concrètes pour empêcher les féminicides.
Et puis dans une dizaine de minutes, la question du jour. Catherine, on va revenir sur ce qui est en train de se dérouler en Éthiopie. Quels sont les enjeux du conflit? Je poserai la question à Éloi Fiquet. Il est anthropologue et historien à l'EHESS.
Oui, nous pourrons retourner au théâtre et au cinéma dès le 15 décembre. Mais si la France ne dépasse pas le seuil des 5000 contaminations recensées chaque jour, et à condition de rentrer chez soi à 21h. Oui, nous pourrons passer les fêtes de fin d'année en famille ou entre amis, mais en cercle restreint, masque conseillé. Oui, les restaurants pourraient rouvrir le 20 janvier, mais cela dépend encore de la situation sanitaire et des efforts de chacun. Ce qui est sûr pour l'instant, c'est que les petits commerces et les lieux de culte rouvriront dès samedi. Bonjour Rosalie Lafarge.
Bonjour.
Ce n'est donc pas un déconfinement, mais un allègement du confinement en trois temps qu'a détaillé hier soir Emmanuel Macron.
Oui, il avait promis des perspectives, il y en a. La réouverture de la plupart des commerces samedi, une possible levée du confinement le 15 décembre avec retour du couvre-feu, sauf pour Noël et le Nouvel An. Puis une troisième étape le 20 janvier avec la reprise des restaurants notamment. L'horizon est fixé, mais il est évidemment soumis à conditions.
Nous avons encore devant nous plusieurs semaines pour atteindre les objectifs que j'avais fixés qui permettent de contrôler l'épidémie et donc de stabiliser le nombre de contaminations autour de 5000 personnes par jour et d'avoir entre 2500 à 3000 personnes en lit de réanimation.
Et ce n'est qu'au prix d'efforts maintenus que nous pourrons donc envisager de passer les étapes annoncées.
Et les deux dernières étapes d'ailleurs, Rosalie, sont soumises à l'évolution de la crise sanitaire, à la prudence que chacun doit adopter. Emmanuel Macron l'a bien souligné, on l'a entendu, et sa stratégie repose également sur la vaccination, Rosalie.
Oui, nous avons trois outils selon le président. Notre responsabilité, un dispositif de traçage et d'isolement amené à être plus efficace, et donc cette stratégie de vaccination.
Notre plan en la matière est clair. D'abord, sécuriser le nombre de doses. Nous l'avons fait avec l'Union européenne et la Commission. Ensuite, garantir la sécurité sanitaire. Un comité scientifique sera chargé du suivi de la vaccination. Un collectif de citoyens sera aussi mis en place pour associer plus largement la population.
Emmanuel Macron promet clarté et transparence sur ses vaccins. Formidable lueur d'espoir, souligne-t-il, conscient de la méfiance qu'il suscite. Et il en profite pour trancher un débat. Il ne rendra pas cette vaccination obligatoire.
Rosalie Lafarge en direct pour France Culture sur l'isolement encore dont vous parliez. Emmanuel Macron souhaite sanctionner les malades qui refuseraient de s'isoler. Et il demande au gouvernement et au Parlement de réfléchir à des mesures contraignantes. Les restrictions liées au confinement donc allégées à partir de samedi. Le chef de l'État a annoncé la mise en place d'un protocole sanitaire strict sans en préciser les modalités, ce qui explique l'optimisme tempéré de Guillaume Husson, délégué général du syndicat de la librairie française.
On a parlé, fut un temps, je pense que cette idée est dorénavant repoussée, mais on a parlé d'interdire la manipulation des livres dans une librairie. C'est complètement antinomique avec ce qu'on vient faire dans une librairie. Et ensuite, effectivement, que ça prenne en compte la grande hétérogénéité dans notre population. Nous avons des librairies qui font entre 50 et 100 mètres carrés et d'autres qui font plusieurs milliers de mètres carrés. Je pense qu'on ne peut pas appliquer indistinctement les mêmes mesures dans des surfaces aussi différentes. Et nous demandions une dérogation pour les librairies de moins de 150 mètres carrés pour qu'elles continuent d'appliquer la jauge actuelle, à savoir un client pour 4 mètres carrés. Puisqu'on parle beaucoup d'une jauge portée à un client par 8 mètres carrés. Voilà. Donc c'est un des points que nous ne connaissons pas, à savoir si les dispositions pourraient être un peu assouplies pour les plus petites librairies.
Guillaume Husson, à la tête du syndicat de la librairie française, il répondait à Maïwenn Bordron, librairie puis théâtre, cinéma et musée. Emmanuel Macron déconfine progressivement la culture. C'est un article à retrouver en une sur franceculture.fr. La question de la jauge, cruciale également dans tous les commerces. Protocole sanitaire renforcé, on l'entendait. Les clients devront aussi s'adapter, précise Jacques Ressel, président de la Fédération du commerce et de la distribution.
Et on compte sur les consommateurs pour d'abord étaler leur venue et puis naturellement adopter l'attitude la plus civique possible de façon à faire en sorte que toutes ces règles sanitaires soient bien respectées. Tous les dimanches, les magasins pourront être ouverts. L'ensemble des commerces va pouvoir essayer de rattraper le chiffre d'affaires perdu, les résultats perdus. Pour la seule grande distribution, ces chiffres atteignaient jusqu'à la semaine dernière de l'ordre de 250 millions d'euros. Donc on sera sans doute aux environs de 400-500 millions d'euros de chiffre d'affaires qui n'aura pas pu se faire.
Jacques Ressel, président de la Fédération du commerce et de la distribution, il répondait à Anne-Laure Jumet. À noter, à Paris, les commerçants pourront poser leurs étals en plein air, sur des places de stationnement ou sur des trottoirs pendant la période vitale des fêtes de fin d'année. C'est ce qu'a annoncé la mairie de Paris hier. Eux garderont porte close. Pour l'instant, du moins, les bars, restaurants, les discothèques et les salles de sport devront patienter au moins jusqu'au 20 janvier. Philippe Herbette, à la tête du groupe Fitness Park, un réseau de 230 salles dans toute la France, hésite aujourd'hui entre amertume et espoir.
On a fermé avant tout le monde fin septembre. Et là, on était les dindons de la farce, comme on dit. Alors, en ouvrant fin janvier, ça fera 4 mois. Plus les 3 mois de fermeture qu'on a eu sur la première vague, ça fait beaucoup. Et puis nous, après, quand on remet la machine en marche, vous savez, il faut du temps pour que les adhérents reviennent. Donc, en réalité, on n'a pas vraiment le temps de remettre la machine en marche entre juillet et septembre. Et maintenant, on fait partie des entreprises les plus touchées. Heureusement qu'il y a le vaccin qui pointe son nez pour montrer un peu le bout du tunnel. C'est la merveilleuse nouvelle.
Philippe Herbette, président du groupe Fitness Park. Des aides renforcées pour les acteurs économiques affectés. En revanche, les jeunes précaires, les saisonniers notamment, devront encore attendre pour savoir s'ils seront également aidés. On y revient dans le journal de 7h30.
7h07 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu en ce 25 novembre, journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes, direction la Turquie, où des organisations féministes organisent des rassemblements à travers tout le pays.
Pour réclamer notamment des mesures concrètes de prévention contre les féminicides, des militantes qui restent mobilisées malgré la répression quasi systématique des manifestations en Turquie. Le reportage à Istanbul d'Anand Lower.
Dans la rue, pour nos droits, pour nos vies, et les unes pour les autres. C'est avec ce slogan que des milliers de femmes sont appelées à manifester à travers la Turquie. Elles le savent d'expérience, se rassembler et protester sous haute surveillance policière, c'est prendre le risque d'être dispersée et de finir en garde à vue. Fidan Ataselim, secrétaire générale de la plateforme « Nous stopperons les féminicides », a déjà été arrêtée, mais elle refuse de reculer.
Rien de ce que nous faisons ne constitue un crime. Le crime, c'est de ne pas appliquer la loi de prévention des violences faites aux femmes. Le crime, c'est d'accorder des circonstances atténuantes aux meurtriers de femmes quand ils comparaissent devant la justice. Si le gouvernement est sincère quand il prône une tolérance zéro face aux violences, qu'il le prouve en cessant d'attaquer les femmes qui luttent.
Fidan Ataselim ne croit pas en ce gouvernement qui envisageait l'été dernier de se retirer de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes. Mais elle est optimiste pour l'avenir du mouvement féministe en Turquie.
Je vois des progrès. Nous sommes dans une période où les mouvements de femmes sont de mieux en mieux organisés et où les femmes ont pris courage. Nous sommes soudées les unes aux autres parce que nous voulons vivre. Nous sommes prêtes à tout pour réclamer et obtenir nos droits. Il nous faudra peut-être payer un certain prix, mais je suis sûre que grâce à notre lutte et malgré les attaques que nous subirons encore, de plus en plus de femmes vivront et vivront libres.
Selon les chiffres officiels, depuis le début de l'année, 234 femmes ont été tuées par un homme en Turquie, souvent par leur conjoint ou leur ex-conjoint.
Anand Lauer à Istanbul pour France Culture. Et en cette journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes, Emmanuel Laurentin posera cette question dès 18h20 ce soir dans le temps du débat. Violence conjugale, les engagements du Grenelle ont-ils été tenus? C'est une première dans le monde. L'Écosse est le premier pays à fournir des protections périodiques gratuites pour lutter contre la précarité menstruelle. Les députés ont voté hier l'inscription dans la loi d'un accès gratuit donc à des tampons et des serviettes hygiéniques mises à disposition notamment dans les établissements scolaires, mesure expérimentée pour l'instant en France dans plusieurs collèges et lycées. C'est aujourd'hui qu'expire en Éthiopie l'ultimatum lancé par les troupes fédérales aux forces du Parti de libération du peuple du Tigré, regroupé dans la capitale de la région Mekele. D'après le gouvernement éthiopien, l'armée a encerclé la ville et le porte-parole de l'armée appelle les civils à se sauver. Après, dit-il, il n'y aura aucune pitié. Plus de 40 000 de ces civils ont déjà franchi la frontière avec le Soudan. Et en plus de subir l'offensive menée par les troupes de l'armée régulière, les réfugiés tigréens affirment que des milices en profitent pour s'approprier leurs terres. Le reportage de notre correspondant au Soudan, Eliott Braché.
Dans le camp d'El Hachaba, il suffit d'un coup d'œil pour voir que beaucoup de réfugiés sont des paysans. De nombreux tracteurs sont stationnés à côté des abris de fortune. Mekonnen Tigabo possédait 4 hectares de sorgho à Meikadra.
J'ai pris la fuite sur mon tracteur car j'ai vu des gens dans le village se faire massacrer, des jeunes égorgés, des femmes violées. Ce sont les Fano qui ont fait ça.
Les Fano en Éthiopie sont historiquement des paysans qui prennent les armes. Aujourd'hui, Fano désigne aussi des groupes de jeunes Amara au discours nationaliste. Pour Mekonnen, ils étaient devenus de plus en plus menaçants.
Ces gangs d'Amara disent que toutes les terres qui s'étendent jusqu'à la rivière Tekeze sont à eux. Ils disent ça depuis longtemps, mais ça s'est intensifié depuis qu'Abiy Ahmed a été élu. Il les a poussés à revendiquer ces territoires. Il n'y avait aucun conflit entre nous avant.
Un autre fermier, Gebretzaber Gebremichael, raconte lui aussi avoir abandonné ses récoltes aux mains des Amara.
Pour cette saison, on avait fini de récolter le sésame. Il ne restait plus que le sorgho. Mais on n'a pas eu le temps. Ils vont tout nous voler. Les Fano s'engouffrent dans le sillage de l'armée pour nous voler nos terres. Leur but, c'est de nettoyer cette région de tous les Tigréens.
La région qui borde la rivière Tekeze est connue pour son sol fertile. Le contrôle de cette terre est aujourd'hui devenu un facteur de haine supplémentaire entre Tigréens et Amara.
Reportage signé Eliott Braché. En Éthiopie, quels sont les enjeux du conflit? C'est la question du jour que vous poserez, je le rappelle, Guillaume Erner, dans un instant. Quelques mots du temps de ce mercredi 25 novembre. Plutôt ensoleillé sur l'ensemble de l'Hexagone, au meilleur de la journée. Il fera entre 8 et 12 degrés dans le nord-est ainsi que dans les Alpes. Comptez de 12 à 15 sur le nord-ouest, 14 à 18 au sud, Guillaume Erner.
Merci Catherine Dutuy. Effectivement, on va revenir sur la situation en Éthiopie, dans quelques instants, on va expliquer les enjeux de ce conflit.